Déambulation.
Ce week-end a eu lieu la 18e édition du marché aux fruits anciens de Orpierre, dans les Hautes-Alpes. Des étalages de courges biscornues et de fruits en tout genre, poires et pommes aux multiples formes et couleurs se montent dans le village. Des passionnés du goût, des savoir-faire et de la nature se retrouvent pour partager leurs connaissances ainsi que les produits qu'ils cueillent ou confectionnent tout au long de l'année. La brume s'est effacée, les rayons du soleil ont montré leur bout de nez. Voici les voix que j'ai pu entendre.
On a une association, les Croqueurs de Pommes, qui est une association nationale dont le but est de préserver les variétés anciennes, alors de pommes, mais bien au-delà, poires, cerises, prunes, qui a des associations locales qui déploient effectivement ces buts-là localement. Alors l'association, elle est basée dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes, mais elle rayonne sur les Hautes-Alpes, sur les Alpes de Haute-Provence, un petit peu sur la Drôme, du côté du col de Cabre, un petit peu dans les vallées des Alpes maritimes, celles qui sont faites limitrophes du Var et des Alpes de Haute-Provence. Voilà ça. Orpierre, on y vient chaque année. C'est parce qu'il y a l'association des fruits anciens d'Orpierre qui a les mêmes objectifs que nous. Les pommes, en fait, personne n'est capable de vous donner un nombre d'espèces en France, rien qu'en France déjà, entre 1000, 3000, 5000. Ce qu'on est en train de faire avec l'INRA, c'est on est en train de faire ce qu'on appelle un génotypage, donc quelque part c'est une analyse ADN de tous les arbres que l'on a répertoriés avec les croqueurs de pommes. Et on se rend compte que la même pomme, elle a 4, 5, 6, 7 noms différents en France, mais finalement c'est la même. Quelque part, c'est le même pépin qui un jour a donné des pommes, et ces pommiers ont été greffés et ont été dispersés partout dans la France, depuis le nord jusqu'au sud, au gré des placements des colporteurs, des familles, des fonctionnaires qui allaient d'un endroit à l'autre, par exemple, des curés ou des évêques qui ont amené des espèces avec eux et qui ont donc disséminé des pommes, des poires, du temps. Et finalement, c'était quelque part le même arbre au départ, mais qui se retrouve à être sous des noms très différents. Alors, de toute façon, ce qui se passe, c'est que le terroir est primordial. Enfin, il suffit de regarder le vin. Vous avez le même cépage qui ne donne pas du tout le même vin à Bordeaux, en Bourgogne. Si on prend ces exemples-là, vous avez des pommes qui vont prendre une couleur beaucoup plus jaune, beaucoup plus rouge, là où il y a beaucoup plus de soleil. Vous avez des pommes qui vont avoir une peau beaucoup plus épaisse dans un climat plus rigoureux, par exemple. Donc voilà, donc il y a quand même une adaptation. Par contre, si on fait l'analyse génétique, c'est bien le même arbre, en fait. Parfois, en fait, on retrouve un goût et on ne sait pas d'où il vient. On sait qu'on a... c'est ce qui nous est arrivé tout à l'heure. On nous a amené une poire. On ne sait pas ce que c'est encore. Mais il y a un goût qui m'a rappelé quelque chose. Mais je ne suis pas encore capable de dire, mais c'est telle ou telle chose. Et c'est à tel ou tel moment que j'ai eu ça. J'ai eu d'autres sentiments de goût, mais pas en fait sur des fruits, où je sais marier à quelque chose de mon enfance. Oui. Il faut aller interroger des personnes âgées qui vont vous dire qu'elles sont contentes de voir que les pommes et les poires qu'elles ont mangées quand elles étaient enfants sont toujours là et sont toujours appréciées.
Alors je suis apicultrice avec mon mari depuis de nombreuses années et on a nos ruches autour d'Orpierre avec la race noire d'abeilles locales. Et on fait du miel toute fleur au printemps, en été, et on transhume nos ruches sur la lavande pour avoir du miel de lavande également. Alors la race noire, c'est une race locale qui est assez vive. Elle peut être agressive quelquefois, mais elle est bien adaptée à notre climat. Donc on essaye de la maintenir le plus possible dans nos ruchers. Je ne sais pas si c'est les Hautes-Alpes ou si c'est le Dauphiné ou un petit peu... Parce qu'en Savoie aussi, ils protègent cette race noire. Donc c'est peut-être le sud-est ou je ne sais pas exactement. C'est important parce qu'on rencontre des gens de la région. Parce que quand on fait les marchés d'été, on rencontre beaucoup de touristes. Tandis que les marchés d'automne, on rencontre des gens locaux. Même si c'est un petit peu élargi, les Alpes de Haute-Provence, voilà. Mais, et puis on est content de parler de son activité, c'est toujours. La ruche, elle est divisée en deux parties. Il y a le corps de ruche, le bas de la ruche, où la reine pond avec les ouvrières. Elle met ses provisions de nourriture, tout ça. Et au printemps, on surveille que ce corps de ruche soit plein. Quand il est plein de nourriture, on met une hausse par-dessus ce corps de ruche, on met une hausse avec des cadres qui sont beaucoup plus petits que ceux d'en bas, et on récolte que le surplus. On ne touche pas le miel et le pollen qui est dans le corps de ruche, parce qu'il faut que la colonie continue à fonctionner, qu'il y ait beaucoup d'abeilles, que la reine ponde, qu'elle les élève, voilà. Donc on récolte que le surplus, que ce qu'elles mettent dans les hausses. C'est passionnant, oui. Tous les élevages, hein, je pense que c'est passionnant comme ça. Le développement, quand vous ouvrez une ruche, que vous voyez la reine qui est en train de pondre, vous voyez le développement de l'abeille dans les alvéoles, vous les voyez construire la cire, remplir de miel, remplir de pollen, c'est miraculeux, quoi. Et puis que ces petites bêtes, gramme par gramme, elles arrivent à vous ramasser des tonnes de miel, c'est magique, ouais. On s'étonne tout le temps, tous les jours. En plus, ça permet d'observer les fleurs, d'observer chaque saison, il y a de nouvelles fleurs mellifères. On suit la nature de plus près, quoi, quand on est apiculteur. Et on est plus proche des éléments, quoi. Quand j'étais jeune, mes parents avaient un jardin, un petit jardin potager. Mais je n'étais pas encore bien familiarisée. J'étais plutôt dans les livres quand j'étais petite. Ça ne m'intéressait pas spécialement, le jardin. Et puis, bizarrement, je suis tombée dans l'apiculture un petit peu plus vers les 20-25 ans. Donc, ça peut arriver à n'importe quel âge, finalement. Mais étant enfant, j'étais plus intéressée par les livres.
Oui, je suis parti ce matin vers 5h30, donc de Die, pour venir sur cette foire d'Orpierre. Donc, on arrive vers 7h pour pouvoir se mettre en place tranquillement, en sachant que les premiers clients arrivent guère avant 9h. Souvent, dès le matin, oui, c'est ceux qui viennent chercher des arbres, qui ne veulent pas être trop embêtés, parce que pour se garer, ce n'est pas toujours facile. Après, il y a beaucoup de monde dans les allées, donc on a les passionnés qui viennent le matin, et puis un peu plus les promeneurs le reste de la journée. Et ben, moi, je suis donc pépiniériste à Die, hein, et donc je suis spécialisé dans les variétés anciennes fruitières. Donc, je ne fais que des variétés de fruits qui ont moins 100 ans d'existence. Alors, déjà, c'est ma formation initiale, je suis pépiniériste de formation. Et j'avais plus ou moins travaillé pour la restauration d'un potager du XVIIIe siècle dans un château. Et donc il fallait chercher les variétés légumières. Il y avait aussi beaucoup de fruitiers dans ce genre de... Donc les variétés fruitières qui étaient utilisées à cette période-là. Et de fil en aiguille, voilà, je suis un peu spécialisé dans ce type de... Oui, j'en connais quelques-unes, on va dire. J'en ai près de 800 catalogues. Et oui, plusieurs milliers sur une base de données, oui. J'ai beaucoup de poires, c'est ma grosse collection, c'est les poires, après des pommes et puis après un peu de tout. Mais c'est vraiment le poire que j'ai le plus. Bah, un peu l'emblématique du Diwa, c'est celle de la vallée de Quin, il y en a plusieurs. Donc la pomme de Quin et une autre, enfin deux autres, une qui s'appelle la Capatio, c'est du patois, hein, et l'autre la Baraou qu'il l'appelle. Donc on va dire c'est assez typique parce qu'on ne la rencontre presque que là, quoi, en France. Quoi, waouh, oui, c'est pas toujours facile à... Non, c'était plus, je pense, le côté du festif quand on faisait du jus de pomme, voilà, c'était plutôt ce côté-là. D'ailleurs, ça perdure puisqu'on en a fait cette année. J'ai redescendu le pressoir que j'avais à l'époque et tout. Donc c'est plus ce côté festif d'aller ramasser les pommes, de collectivement les écraser, les presser, etc. Donc j'ai plus ces souvenirs-là, quoi, que d'un produit en particulier, quoi.
Ben nous, on est en retraite et on s'occupe d'une association qui s'appelle les Amis de Trescléou, qui est une association qui a pour but de valoriser le patrimoine. Et la pistole dont on parle aujourd'hui fait partie du patrimoine. Parce que c'était une activité régionale qui était très importante jusqu'entre les deux guerres. Les pistoles étaient fabriquées, on en a exporté plusieurs tonnes tous les ans. C'était un revenu d'appoint pour les régions du coin. La pistole, c'est une prune séchée, pelée, séchée, dénoyautée et aplatie, ce qui fait qu'elle ressemble à la pièce de monnaie, la pistole. C'est d'où son nom. C'est une prune qui est rouge-violette à l'extérieur, mais jaune à l'intérieur. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est pelée, elle devient jaune. Et ça se voit aussi dans les confitures. C'est une prune où rien ne se perd. On utilise tout. Du noyau, la peau, les noyaux, la chair, tout. On peut faire plein de choses. À Trescléau, on essaye de la valoriser, mais c'est une prune qui pousse pratiquement partout dans le sud. En fonction des régions, des endroits, ils ne la travaillent pas tout à fait de la même façon. Ah, on a appris par les anciens. Parce que les anciens, on a encore un certain nombre d'anciens qui ont vécu grâce aux piscoles, qui en ont fabriqué beaucoup. Donc ils ont pu nous apprendre et nous dire, ben, on fait comme ça. Qui ont su indiquer quels étaient les arbres qui réellement... Parce que tous les padrigones ne marchent pas pour faire des pistoles. Il n'y en a qu'une variété. Parce qu'il y a trois variétés de perce-drigons, mais il n'y en a qu'une qui marche pour faire des pistoles. Donc ils nous ont appris à reconnaître les arbres. Nous, on les a sélectionnés, on a fait un verger exprès qu'avec que cette variété-là, pour être gardée. Et puis on essaye de... Bon. En venant ici, en allant à des marchés de ce genre-là, pour montrer ce que c'est et expliquer ce que c'est. C'est un gros travail pendant, disons, un mois. Mais tout se fait à la main. Et à l'époque, comme ça se passait à la saison creuse, entre les moissons et les premiers labours, toute la famille, elle était mise à contribution. Donc les jeunes passaient des journées appelés ou à dénoyauter et ils en avaient marre.
On refait sécher 2-3 jours.
Donc, quand on leur en parle, oh, les vissoles. Et si on ne le valorise pas, ça va disparaître. Ce sont des variétés qui sont très anciennes, qui sont très rustiques, donc qui demandent peu d'entretien, pas de traitement.
On peut faire de la tisane.
Donc,
on fait de la gelée.
Ce serait perdre un patrimoine, vraiment. Parce que ce sont des pruniers qui sont arrivés ici avec les croisés. Donc, pour voir depuis tant qu'ils existent, ces pruniers. Bon, on n'a pas d'arbres qui datent de cet âge-là. Mais je veux dire, la variété existe depuis cette époque-là. Ils sont arrivés du côté de Marseille, puis ils sont remontés tout doucement. Mais arrivé à une certaine altitude, ils ne poussent plus. On ne peut pas faire de l'industriel. Parce que tout se fait à la main.
Donc maintenant on les met dans de l'alcool.
Mais de bonnes choses comme ça, il faut faire connaître. Il faut rappeler aux gens, oui, vos grands-parents, ils ont vécu grâce à ça.
On fait de la confiture.
C'est quelque part un peu du respect envers les anciens. C'est un tel plaisir quand on voit qu'on a fini et puis qu'on voit ces petits ronds dorés là, qu'on met délicatement dans les boîtes et puis quand on mange ça, on a l'impression de manger un bonbon acidulé, mais avec tous les bienfaits de la fruit frais. Moi je suis de la génération où c'est beaucoup de la grande production et en plus j'ai été élevée en ville. Donc les anciennes variétés, toutes ces choses-là, je ne connais pas trop. Je les découvre maintenant. Je suis en retraite, je suis de plus en plus à la campagne, donc je découvre. Puis tout le monde, beaucoup, je crois que c'est une tendance générale. Dans les fruits et les légumes, les gens retournent sur les anciennes variétés, qui ne sont pas forcément belles, et en goût, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est les variétés anciennes, je ne les connais presque pas parce que j'habitais en ville. Et qu'en ville, c'est que de l'industriel. Et j'ai des souvenirs de trucs, des anciennes méthodes. Le yaourt en bouteille en verre. J'ai connu ça. Les bouteilles d'un litre de yaourt avec des gros goulots et la capsule en métal dessus. On se régalait à tremper le doigt tant qu'on pouvait dans le goulot de la bouteille pour attraper le yaourt. Le beurre vendu en grosse motte, qui perlait un petit peu, là. Bien jaune bouton d'or, là, pas blanc, jaune bouton d'or, avec un goût. Ça avait un goût incomparable. Ça sont des choses qu'on ne trouve plus.
Là, c'est un petit projet où on a fait un petit livret là, avec un copain qui est paysagiste. L'idée, c'est de greffer du coup, les arbres, les fruitiers au bord du chemin, accessibles à tout le monde, gratuit. Voilà. Et on fait des petits jours d'initiation à la greffe. souvent il y a une vingtaine de personnes, une trentaine. Du coup, on apprend ce geste et après on part dans la nature à reconnaître les arbres sauvages qui se greffent. Et voilà, on crée ce petit chemin comestible. Déjà, la greffe sauvage, ça fait vraiment que l'arbre, déjà l'arbre sauvage, il est en place, il a quelque part choisi son endroit, il a moins besoin d'assistance. Et de greffer les arbres au bord du chemin qui sont accessibles à tout le monde, que, voilà, c'est un geste. Ce truc de greffe sauvage, c'est aussi c'est un côté chouette. Tu pars avec trois branches dans la poche et tu n'as pas ce fait d'aller arroser avec un seau lourd hein, en plein été. Hein, l'arbre est là, tu le greffes, c'est assez magique. Hein. Ouais. Non, c'est un peu un délire. Après, on se dit, voilà, il y a plein de gens qui prennent ce chemin, qui mangent des fruits, du coup, après, ils crachent les fruits au bord du chemin. Du coup, on se passe. On verra bien dans 10 ans, qu'est-ce que ça donne. Un arbre préféré. Oh, c'est difficile. Moi, j'ai très du mal avec ces questions-là, parce que ça dépend beaucoup le moment, de l'état dans lequel on est. Je ne sais pas, il y a une connexion qui se fait des fois. La ouverture d'esprit que tu as sur le moment où tu es en face d'un vivant, un arbre ou autre. Ouais. Ben, c'est vraiment le rapport, je pense, au long terme ou à la durée. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très apaisant là-dedans. Non, c'est quelque chose de donner, mais aussi de recevoir hein, sur le long terme, je trouve. Je ne sais pas, c'est une chose que je trouve ça très apaisant. Ça me tient à cœur. C'est aussi, ça change un peu le rapport au temps. Là, on fait aussi pousser les légumes, mais c'est aussi très chouette, j'aime beaucoup. Mais l'arbre, ça fait vraiment... presque on a envie de vieillir. Hein. C'est un truc qu'on a normalement pas trop. Mais parce qu'on plante un arbre et on sait dans 5 ans, on aura des fruits. Ou dans 3, ou dans 10. Et en fait, c'est un rapport au temps qui change. En fait, une curiosité sur le long terme. Et c'est quelque chose... moi, j'ai l'impression, des fois, ça me change un peu. Mes idées par rapport au fait de vieillir ou des choses comme ça. Où j'ai l'impression... ça tranquillise ou ça donne presque envie aussi que le temps des fois qu'il passe ou de... ouais.
Ce que j'ai retenu de ce marché aux fruits anciens, c'est la convivialité chaleureuse avec laquelle sont venus visiteuses et visiteurs lors d'une période où le masque couvre nos sourires et les injonctions étatiques nos envies d'être ensemble et de partager. Ce que je retiendrai également, c'est la passion avec laquelle vivent ces gens qui ont les mains dans la terre et dans les feuillages. Peut-être devrions-nous voir les fruits anciens, non comme des produits de consommation comme les autres, mais plutôt comme les symboles de modes de vie revisités, d'un rapport pacifié avec notre environnement, peut-être plus harmonieux. C'est l'automne. Surtout, n'oubliez pas, baladez-vous en forêt et mangez des coings. Toum, toum, toum.